votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. Je suis ravi d'être avec vous cette semaine alors que les vacances de Juan Gomez se poursuivent, que tout le monde se rassure, il sera de retour dans un mois puisqu'on nous a beaucoup posé la question. Dans 30 minutes, le débat du jour. Nous allons parler pénurie d'eau à Dakar. Plusieurs quartiers sont quasiment à sec. Cela fait 3 mois que ça dure au moins et vous nous raconterez comment vous vivez cette situation, quelles solutions vous préconisez dans la capitale sénégalaise et bien au-delà. On vous attend donc au 33 9 693 693 70. Mais comme chaque jour, d'abord vos questions sur l'actualité, les questions que vous posez à la rédaction de RFI qui vont nous permettre ce lundi d'aller sur Mars, en Corée du Nord et à Cuba. Pour commencer, nous sommes en ligne avec Joe. Bonjour Joe.
Bonjour Arnaud.
Vous nous appelez de Cotonou au Bénin et vous vous posez des questions sur la planète Mars, précisément sur l'annonce qui a été faite mercredi dernier par une équipe internationale d'astronomes. Un vaste lac souterrain a été découvert sur la planète rouge, un lac de 20 km de largeur situé sous une couche de glace. Que voulez-vous savoir, Joe ?
Oui Arnaud, je voudrais déjà savoir comment est-ce que la découverte a-t-elle été réalisée ? Et les scientifiques sont-ils formels sur le fait que le lac ne soit pas asséché comme précédemment ?
Alors, c'est Simon Rosé, notre spécialiste des questions spatiales et extraterrestres à RFI, qui vous répond. Bonjour Simon.
Bonjour Arnaud, bonjour Joe.
Alors, comment a été faite cette découverte, Simon ?
Alors, elle a été faite depuis l'orbite grâce à un satellite européen qui s'appelle Mars Express, un vieux satellite, c'est une vieille mission maintenant, qui embarque à bord un instrument qu'on appelle MARSIS, qui est en fait un radar. Alors, un radar, comment ça fonctionne ? Ça envoie des ondes qui sont réfléchies, par exemple, sur le sol, elles rebondissent, et en fonction du temps que le trajet émet, on peut déterminer l'altitude et la composition des objets et ce sur quoi elle a rebondi. Ce qui est encore plus fort, c'est que des fois, ces ondes, elles peuvent rentrer dans le sol. Par exemple, quand c'est un peu de terre, il y en a un peu qui vont rentrer, elles vont rebondir sur autre chose. Donc, on va savoir qu'il va y avoir une différence de structure dans le sous-sol. Mmh. Là, en l'occurrence, quand ça passe au travers de la glace, ça passe comme dans du beurre. On voit rien au radar. Et en revanche, dès que ça touche de l'eau, ça rebondit comme sur un miroir.
Il y a un écho.
Il y a un écho. C'est exactement ça. Et on sait qu'à telle profondeur, toutes les ondes du radar ont été renvoyées. Donc, c'est qu'il y a de l'eau. Donc oui, on est sûr qu'il y a de l'eau dans ce lac à cet endroit-là.
On est sûr qu'il y a de l'eau et de l'eau sous forme liquide aujourd'hui.
De l'eau sous forme liquide, oui. Parce que sous forme de glace, le radar l'aurait pas détecté puisque les ondes seraient passées comme
ça
dans du beurre.
Ça serait passé comme dans du beurre. Comme,
ouais, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est, bon, après, c'est pas la première fois. Hein. De l'eau sur Mars, on sait qu'il y en a. Sous forme de glace, sous forme de vapeur d'eau. De l'eau liquide, c'était la grande question. La NASA a tendance à l'annoncer tous les ans à peu près qu'elle en trouve, c'est pas toujours vrai, mais la dernière fois c'était en 2015, il y avait une belle annonce qui reste un peu sujette à caution, c'était des écoulements, on savait pas trop ce que c'était en surface. Là, a priori, c'est assez c'est assez avéré, c'est assez béton, j'ai envie de dire. De l'eau, à quoi ça ressemble ? On est à donc à 1,5 km de profondeur, il fait moins 70. Alors, comment de l'eau liquide quand il fait moins 70 degrés, me direz-vous ? C'est de l'eau salée. Comme quand sur les routes, on balance du sel pour faire dégeler et déverglacer.
Déneiger ou déverglacer.
Et déneiger, route, et le sel permet en fait de maintenir l'eau de l'eau liquide et non pas sous forme de glace. Et la pression aussi, la glace qui appuie sur tout ce volume d'eau permet qu'elle soit toujours liquide.
Et quel est l'intérêt de trouver de l'eau sur Mars ?
Ah bah c'est la grande question puisque forcément se pose la question de la vie. Mars, c'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, qui s'est développée un peu avant la Terre. On sait qu'elle a été habitable, on sait qu'elle a eu des océans. Donc, pourquoi pas la vie qui serait apparue dessus ? C'est la grande question. A priori, là où il y a de l'eau liquide, sur Terre en tout cas, en général, ça fourmille. Donc, pourquoi pas ? C'est la grande question.
Pourquoi pas ? C'est ouvert. C'est justement le sens de votre deuxième question, Joe.
Oui, c'est exactement cela. Est-ce que nous pourrions dire que c'est la preuve d'une vie sur Mars ?
Et non. Alors, et non, malheureusement.
Bah, justement, parce que. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas forcément quelqu'un au bout.
Voilà. Parce que sel. Justement, parce que sel, c'est, imaginez la mer morte, qui est très salée sur Terre. On l'appelle la mer morte pour une bonne raison. C'est que, justement, cette saturation en sel est très peu compatible avec la vie. Après. Il y a sur Terre ce qu'on appelle les organismes extrémophiles. Ce sont des organismes qui vivent dans des endroits où, a priori, on s'attendait pas à trouver de la vie,
oui.
Par exemple à côté des sources des geysers sous-marins, ce qu'on appelle les cracheurs noirs, qui sont un contact quasiment entre le manteau de la Terre, donc de la lave et de l'eau. Donc c'est une zone où il y a de l'eau en ébullition, avec des acides, du soufre, des conditions très hostiles, et pourtant il y a des organismes qui vivent ici. On a fait des expériences à bord de la Station Spatiale Internationale, de mettre des tardigrades, c'est un petit acarien, de le mettre dans le vide de l'espace, le laisser reposer comme ça, le récupérer après, le truc est encore vivant. La vie a une capacité de résilience complètement incroyable, on est toujours surpris, donc bien malin qui peut répondre aujourd'hui à la question, est-ce qu'il y a quelque
peut-être
chose dans
ça de vie. Bon, on est encore bien loin du petit homme vert en tout cas.
ça on en est encore très loin, là on parle vraiment de micro-organismes, et malheureusement une chose est sûre, c'est qu'on n'ira pas voir dans l'immédiat, parce que c'est le pôle sud de Mars. Donc si jamais un jour il y a une mission humaine, on n'ira pas du tout dans cette région. Envoyer une mission robotique qui soit capable de forer 1,5 km de profondeur, on ne sait pas faire et on ne saura pas faire, et puis il n'y a rien de...
On ne sait pas faire aujourd'hui, Simon, on ne sait pas faire aujourd'hui.
En tout cas, dans les 10-20-30 ans, il ne faut pas s'y attendre.
D'accord. Joe, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement. Merci Arnaud.
Merci à vous, merci surtout à Simon Rosé.
Et merci à Joe.
Et merci de nous écouter à Cotonou sur 90 FM. Vous suivez de près ces découvertes scientifiques, Joe ? C'est ça qui vous... Ça vous intéresse ? Ça vous fascine ?
Oui, énormément.
Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? C'est la possibilité d'une vie extraterrestre ou c'est en savoir plus sur l'ailleurs ?
C'est déjà ça, c'est l'inconnu.
Oui.
L'espace, on veut toujours savoir un peu plus.
En savoir plus sur la vie. Merci à vous et bonne journée à Cotonou.
Merci.
J'accueille maintenant un autre auditeur de RFI, Alpha. Bonjour Alpha.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de la capitale guinéenne, Conakry. Vous avez quelques questions au sujet de la Corée du Nord, du rapprochement avec les États-Unis, du démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Je vais d'abord rappeler qu'il y a quelques jours, vendredi, le 27 juillet, c'était le 65e anniversaire de l'armistice qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953. Et que le 12 juin dernier, on se souvient tous que Donald Trump et Kim Jong-un s'étaient rencontrés à Singapour. Sommet historique, poignée de main, sourire, déclaration commune et engagement d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Alpha, vous avez des questions sur le démantèlement d'un site de lancement nord-coréen. C'est le site de Soae. Des photos satellites ont été prises il y a quelques jours et elles indiquent qu'il y aura un démantèlement en cours. Quelle est votre première question, Alpha ?
Oui, Arnaud. J'aimerais savoir qui représente réellement ce site dans l'arsenal nucléaire nord-coréen. Est-ce un pas important vers la dénucléarisation ?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Juliette Morio, spécialiste des deux Corées. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce site, Juliette Morio ?
Alors, en fait, ce site, le site de Sohae de la mer de l'Ouest, est un site de lancement de missiles. Donc, c'est un site extrêmement important, puisque c'est de là qu'ont été lancés pas mal de missiles ces dernières années. Donc, mais c'est surtout, son démantèlement est surtout symbolique, parce qu'il faut savoir que il y a certainement d'autres sites de lancement de missiles en Corée du Nord, que ce genre de site peut être reconstruit assez rapidement, et que les Nord-Coréens disposent aussi de possibilités de lancer des missiles de façon mobile. Donc c'est avant tout symbolique, et ça s'inscrit véritablement de la part des Nord-Coréens dans une marque de bonne volonté dans le fameux cadre de la dénucléarisation qui finalement avance quand même un petit peu, même si tout le monde a l'air d'être très impatient.
Et très sceptique aussi. Hein. Est-ce qu'on est certain de ce démantèlement malgré tout, Juliette Morio ?
Je pense qu'on est certain de ce démantèlement, mais je reviens sur votre mot sceptique face à la dénucléarisation. Il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même énormément de gestes de la part de la Corée du Nord. C'est-à-dire que vous avez quand même eu des prisonniers, souvenez-vous, depuis le début des négociations, des prisonniers américains qui ont été libérés. Vous avez eu la destruction d'un site de Punggye-ri, qui était un site, là pour le coup, un site atomique, un site nucléaire. Vous avez la destruction de ce site. Et puis, il y a quelques jours, à l'occasion justement de l'anniversaire de la signature de l'armistice qui a mis fin à la guerre de Corée, les Nord-Coréens ont, comme ils l'avaient promis, redonné aux États-Unis les dépouilles des soldats morts au combat. Et c'était une demande américaine. Donc vous avez quand même des gestes de bonne volonté de la part de Pyongyang qui se multiplient depuis le sommet du 12 juin.
Je reviens à la question question d'Alpha. Est-ce que c'est un pas important, ce démantèlement, vers la dénucléarisation de la Corée du Nord?
C'est un pas qui s'ajoute aux autres pas que je viens de citer et qui s'ajoute aussi quand même au fait, n'oublions pas qu'il y a quelque chose qui est très net dans ce qui se passe entre Corée du Nord et États-Unis, c'est que quand même depuis septembre 2017, vous n'avez pas eu d'essai nucléaire et vous n'avez pas eu depuis plus de 9 ou 10 mois d'essai de missiles balistiques. Donc tout ça s'est totalement calmé sur la péninsule de leur côté. Par contre, les États-Unis n'ont fait jusqu'ici qu'un geste, qu'un seul geste, hormis le fait de dialoguer avec Pyongyang, c'est qu'ils ont arrêté les manœuvres conjointes américano-sud-coréennes, qui était une demande de Pyongyang. Donc quand même, on a beau être sceptique, les choses avancent en leur temps, mais en fait, le réchauffement et le trust building, créer, bâtir la confiance, se fait avant finalement l'étape de la dénucléarisation qui sera progressive si tout va bien.
Alpha, vous êtes toujours là en ligne de Conakry. Vous aviez une autre question.
Oui Arnaud, étant donné qu'il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain Mark Pompeo demandait la pleine application des sanctions contre le régime nord-coréen, est-ce qu'on peut dire finalement que le président Kim Jong-un cède à la pression de la communauté internationale et des États-Unis? Et quelles peuvent être les conséquences éventuelles d'une telle démarche dans ses relations avec les autres nations?
Juliette Morillo, est-ce que Kim Jong-un agit sous pression?
Non, je ne pense pas que Kim Jong-un agisse sous pression. Je pense que, bien évidemment, les sanctions ont joué pour ce revirement qui a été annoncé au moment du discours de Nouvel An. Mais surtout, aujourd'hui, Kim Jong-un veut développer, a déclaré qu'il avait terminé, on s'en souvient, son programme nucléaire et balistique. Et maintenant, il se tourne très clairement vers l'économie. Et le pays est littéralement étranglé par ces sanctions. Donc, mais néanmoins, cette volonté de dénucléarisation n'est pas due uniquement aux sanctions. Et puis, qu'est-ce que ça va changer dans les relations avec les États-Unis? On en parlait il y a quelques instants, il s'agit de reconstruire la confiance. Et il y a un autre geste très très important de la part des Nord-Coréens, c'est que tout le vocabulaire en Corée du Nord, qui était un vocabulaire de propagande, des slogans anti-américains, ça a totalement disparu des murs, des villes, de la radio, des journaux. Maintenant, on ne parle plus de façon agressive des États-Unis. Les Nord-Coréens ont même annulé une fête, une sorte de rallye annuelle, manifestation annuelle anti-américaine qui faisait généralement la une des journaux dans le monde entier, tellement c'était violent, donc ça a été annulé. Donc les relations sont en train de s'apaiser et qu'est-ce que ça va donner? Probablement ouvrir la voie à... Les cartes sont en train d'être rejouées dans cette partie du monde. La guerre froide est littéralement en train de se terminer. La Corée du Nord va renouer des liens, c'est ce qui est en train de se passer avec la Chine, avec la Russie, avec la Corée du Sud. Mais dans tous les cas, les sanctions extrêmes qu'avait promises Donald Trump, cette époque-là est terminée parce que ni Chine, ni Russie, ni Corée du Sud ne sont prêts à revenir à l'époque d'avant le fameux sommet de Trump. Donc on est véritablement à l'aube d'une nouvelle époque.
Merci Juliette Morillo, spécialiste des deux Corées. Merci d'avoir répondu aux questions d'Alpha. Est-ce qu'on a bien répondu à vos interrogations, Alpha?
C'est parfait Arnaud, merci.
Merci à vous et merci de nous avoir contactés et merci d'être fidèle à RFI à Conakry. Pour la prochaine question, nous allons dans le nord du Togo, nous attend Fiston. Bonjour Fiston.
Bonjour Arnaud Pontus, bonjour à tous les auditeurs de RFI, à tous les techniciens particulièrement.
Alors c'est le projet de réforme de la constitution de Cuba qui vous interpelle. Les députés ont adopté le texte il y a 8 jours, à l'unanimité. Le projet introduit dans la constitution des changements importants, sur le plan économique notamment, on parle marché, propriété privée. Il est plus question de société communiste, mais l'orientation socialiste n'est pas abandonnée pour autant. Et pour vous répondre, Fiston, Marie Normand du service international de RFI m'a rejoint. Bonjour Marie.
Et bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Fiston, on écoute votre première question.
Voilà, de quelle manière cette réforme pourrait améliorer l'économie des Cubains?
Alors, est-ce que ça va améliorer l'économie cubaine, Marie ?
Alors, d'abord, il faut préciser quelque chose, c'est que ce n'est pas vraiment une réforme, en fait. Mmh. C'est une nouvelle constitution qui va, si elle est validée, hein, parce que pour l'instant, c'est juste un projet, elle va remplacer celle de 1976. Depuis 1976, vous pouvez bien l'imaginer, Cuba a changé un peu, surtout sur le plan économique. Il y a eu, en fait, il y a 10 ans, un assouplissement de certaines règles qui existait depuis la Révolution. Il est possible, depuis 2008, d'acheter un appartement, de le vendre, faire la même chose avec sa voiture, et puis de demander des licences pour créer de petites et moyennes entreprises, de se mettre à son compte. En France, on dirait devenir auto-entrepreneur. Et donc, ça va du boulanger au loueur de camionnettes. Ça, se mettre à son compte, c'est donc possible, mais ça n'existait pas dans la Constitution. Donc, ces réformes, elles vont être intégrées au nouveau texte, elles vont être pérennisées. Et la nouvelle constitution, elle reconnaît donc la propriété privée, l'investissement étranger, l'existence d'une économie de marché, en fait. Certains espèrent que cela va permettre déjà à l'État cubain de ne pas revenir en arrière, parce que, par exemple, l'État était déjà revenu en arrière en 2017, l'année dernière. Donc, il avait cessé d'émettre ses licences pour avoir des petites et moyennes entreprises. Il a recommencé à les distribuer il y a quelques mois seulement.
Alors, donc, c'est une mise à jour, en quelque sorte, hein, de la Constitution.
Voilà.
L'un des objectifs de la nouvelle Constitution, c'est aussi de rassurer les investisseurs, Marie.
Oui, en tout cas, d'essayer de les rassurer, de les attirer à Cuba, parce que Cuba en a besoin pour se développer. Mais il y a d'autres problèmes qui gênent encore ces investissements. Notamment, nous expliquent certains experts, certains chercheurs, la mauvaise qualité des infrastructures. Et puis, il y a surtout aussi l'existence d'une double monnaie à Cuba. Ouais. Un peso qui est convertible en dollars et un peso qui n'est pas convertible, et ça c'est très compliqué donc pour les entreprises étrangères qui investissent à Cuba. Donc en résumé, hein, fiston, pas d'amélioration dans l'immédiat. La nouvelle constitution, elle va valider des choses qui existaient déjà, et puis elle va peut-être créer un environnement plus favorable aux investissements. Le problème, c'est que pour au moins une partie de la population, ces réformes, elles n'ont pas changé grand-chose. Les inégalités se sont même creusées.
Fiston, vous aviez une autre question à propos de cette révision de la Constitution à Cuba.
Évidemment. Hormis le secteur économique, quels sont les autres grands secteurs qui pourraient connaître des changements suite à la réforme constitutionnelle?
Alors, qu'est-ce qui va bouger, Marie?
Alors, il y a de vrais changements, hein, sur d'autres points. Déjà, sur le plan institutionnel, il y a la création d'un Premier ministre. Ça n'existait pas, ce poste, avant, cette fonction. La nouvelle Constitution, elle met en place aussi une limitation des mandats. Deux mandats, par exemple, pour un président. Raúl Castro se l'était déjà imposé, on s'en souvient. Il a laissé sa place cette année à Miguel Díaz-Canel. Mais ça n'existait pas encore dans la loi fondamentale. Et alors, je ne vais pas citer les 224 articles de la Constitution, on n'aurait pas le temps, mais sur le plan judiciaire, il y a aussi des changements. Par exemple, on peut lancer des actions collectives maintenant. Et puis, il y a aussi des questions sociales,
je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Oui, en un mot.
Donc, dans le nouveau texte, entre une disposition particulièrement, dont on a beaucoup parlé, qui est la non-discrimination de genre. Le mariage est désormais défini comme l'union de deux personnes, mais on ne précise pas le sexe, ce qui pourrait, pourquoi pas, dans quelques temps, on ne sait pas quand, permettre l'arrivée du mariage homosexuel dans le pays.
Vous aviez une dernière question, fiston, et on va essayer de vous répondre rapidement.
Évidemment, Arnaud Pontus, la réforme constitutionnelle doit être soumise à un référendum. Qu'en pensent les Cubains?
Alors, est-ce qu'on sait ce que pensent les Cubains de tout ça, Marie?
C'est un peu difficile, hein, pour l'instant de le savoir. On sait qu'il va être possible d'observer, en tout cas dans les mois qui viennent, ce que la population pense à travers ces consultations populaires, ces débats qui vont être organisés dans toutes les régions du pays. Alors, c'est pas totalement libre, hein, les participants ont été triés sur le volet, ont été sélectionnés.
C'est pas un débat totalement ouvert.
Pas complètement. Cuba reste Cuba, mais en tout cas, le texte peut encore un tout petit peu changer avant d'être soumis au référendum à la fin de l'année.
Et le débat populaire, c'est du 13 août au 15 novembre. Merci d'avoir répondu aux questions de Fiston, Marie Normand. Fiston, est-ce qu'on a rempli le contrat? Est-ce que vous avez la réponse à vos questions? Alors, on va dire que oui, parce qu'on ne vous entend plus. On va dire que c'était des cris de joie dans le téléphone qui avait du mal à passer. Merci de nous avoir appelés du nord du Togo. Vous restez avec nous. Appel sur l'actualité se poursuit dans 10 minutes. On vous parle de la pénurie d'eau, notamment à Dakar. À tout de suite sur RFI.